Je vous rappelle que le but de notre travail du lundi, c'est d'essayer de regarder la question de la mémoire ontologique, de la mémoire spirituelle, la mémoire de l'être, d'être libre, c'est-à-dire d'être capable à chaque instant, quand on veut, de rencontrer Dieu dans la mémoire de Dieu qui est en nous, la mémoire de l'être, la mémoire. On peut atteindre Dieu par le point de vue de l'intelligence, en essayant de chercher la vérité, de comprendre, d'atteindre Dieu, de le connaître et de le recevoir en nous. On peut l'atteindre par le point de vue du cœur et de l'amour, en nous donnant à lui. Et on peut atteindre Dieu d'une troisième manière, spirituellement parlant, c'est en rejoignant sa présence en nous, mais sa présence réelle en nous, sa présence personnelle en nous, là où il se trouve. Et dans les caves, les fameuses caves de l'oubli. Nous avons oublié Dieu. Comme que c'est la plus grande expérience d'amour que nous n'ayons jamais eue, et qui est tout le temps sous-tendue, et qui fait d'ailleurs qu'on survit dans notre quête spirituelle. C'est la seule raison pour laquelle on survit d'un point de vue de la quête spirituelle, c'est qu'il y a cette espèce d'entrailles tordues du souvenir, de la présence de ce premier amour avec Dieu qui est en nous. Dieu est toujours présent en nous. Il est au centre de notre âme. Alors, je ne reviens pas bien sûr sur le tableau, mais c'est le tableau rond que vous avez. Hein. Dieu est au centre de notre âme. Mais il y a plein de choses qui sont recouvertes dessus, et notamment toute une zone psychologique qui fait qu'on oublie, n'est-ce pas? Sans compter tous les processus et tous les problèmes qui relèvent de la matière, du corps, du point de vue physique, etc. Et du monde extérieur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on oublie Dieu, mais tous nous sommes quelque part dans l'oubli de Dieu. Mais c'est pas parce qu'on l'a oublié qu'il n'y est plus. Et la mémoire spirituelle, c'est de savoir retrouver Dieu en étant sûr de ne pas se tromper, parce qu'on peut s'imaginer que c'est Dieu qu'on trouve au fond de notre âme, alors que c'est pas lui, on se l'imagine. Alors comment savoir si c'est sûr que c'est lui? C'est ça qu'on recherche. Et donc notamment le lundi, nous regardons le problème tout à fait particulier, de la relation entre le point de vue donc spirituel, c'est pour ça que je mets ici, ça veut dire métaphysique, si vous voulez, donc ça structure le point de vue spirituel, ou pneumatique. Pneuma, ça vient de esprit, et le point de vue psychologique, ça c'est psy, c'est pour désigner la psyché, l'âme. Et nous essayons de ne pas vivre au plan psychologique, puisque c'est... Mais donc, entre le psychologique et le spirituel en nous, entre les deux, il y a des interférences. Voilà. Il y a des allers-retours continuels entre notre âme et notre esprit. Pourquoi? Parce que notre âme est spirituelle. Et que notre vie spirituelle, notre intelligence, notre cœur, et puis la connaissance de ce qu'on est, et notre vocation, et tout ça... ça s'inscrit, ça vient se loger dans le nid de notre âme, dans tout ce qu'on ressent, etc. Mais malheureusement, notre âme est complètement perturbée par plein de choses, notamment le péché originel avec ses séquelles, d'une part, les influences contraires à l'extérieur, les instincts, et puis toutes les blessures psychologiques. Et tout ça... Ça capte l'attention de la psyché sur les blessures, sur l'extériorité, sur les fameux quatre vents de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et du coup, on oublie ce lien, cette unité, ce mariage entre le psyché et le pneuma, lequel me met en relation de communion de personnes avec cette présence continuelle de Dieu au fond de moi. J'oublie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus. Donc comment, à partir du problème des blessures psychologiques, et de l'écho continuel, non pas de cette présence amoureuse de Dieu, mais L'écho continuel du péché symbiotique, du péché communionnel, du péché de l'humanité dont nous sommes porteurs. Regardez comme c'est pénible d'être dans une société, communauté, tout ce que vous voulez, où il y a plein de péchés tout autour de vous. C'est pour prier, pas commode. Hein? Voilà. Alors, comment faire pour reconnaître à travers ces blessures donc ce qui fait qu'elles nous détournent de la mémoire ontologique, qui nous détourne de l'activité spirituelle qui correspond à cette puissance de l'âme. N'est-ce pas? Tout le monde sait que nous sommes faits, c'est ce que nous avons en plus de par rapport à l'animal, par une intelligence, une volonté. Ça, tout le monde le sait. Mais mémoire, ah bon, ça, enfin mémoire, il ne faut pas dire mémoire justement aujourd'hui. Je ne sais pas comment il faudrait dire. Enfin, il y a trois. Alors, nous avons la volonté, l'intelligence, et puis la conscience métaphysique, si vous voulez. Mémoire, mais gardons mémoire, c'est le terme classique. Mais c'est pas je me rappelle, ah oui, je me rappelle, je vous ai rencontré il y a 8 jours. Non, c'est pas cette mémoire-là, d'accord? Hein? Et comment? Ce que nous regardons aujourd'hui, c'est le point de vue psychologique qui vient perturber notre mémoire spirituelle, et comment on va utiliser ces éléments qui nous en détournent. Ces éléments, ces blessures, cette culpabilité, ces péchés, ce sentiment de culpabilité, par exemple, ces angoisses, n'est-ce pas, ces blessures, ces dérives, eh bien, qui nous en détournent complètement, eh bien, comment on va faire pour les utiliser pour être encore plus puissamment au centre de notre âme, dans communion avec Dieu. Voilà notre recherche. Sachant que le samedi, nous regardons plutôt la question du côté du corps. Hein? Le samedi, nous regardons la même chose, mais c'est le point de vue du corps. Le corps. Cette zone-là. Le lien avec le point de vue physique de la mémoire génétique, de la mémoire tachyonique, de la mémoire électrique, si vous voulez, énergétique, métapsychique. Métapsychique, c'est ici. Le lien entre le corps et la psyché. Ça, c'est ce qu'on regarde le samedi. Et le dimanche, nous regardons comment un homme qui est parfait, Joseph, vit de ça, par la grâce du Christ. Vie de la mémoire, paternité surnaturelle incarnée. Bon, alors comme ça, c'est pour montrer le lien entre les 3 jours. Et donc, nous allons continuer, nous reprenons notre texte, notre tableau, pardon, sur le sentiment de culpabilité. Nous avons vu la dernière fois les dérives. Les sentiments de culpabilité, les habitudes, les vices habitudinaires, les névroses. Les arbres de la forêt derrière lesquels on se cache parce qu'on a honte de soi-même. On est un peu honteux de soi-même, on ne s'aime pas. Alors du coup, on se cache derrière des arbres de la forêt pour ne pas voir la vérité, la réalité. La réalité de notre faute. Et ça vient du fait, je vous le rappelle, donc, qu'on considère quelque part dans notre psychologie que nous sommes nuls. Mais c'est psychologique, c'est pas vrai. La psychologie, c'est toujours illusoire. La psychologie, c'est l'imagination. C'est comme dans les rêves de la nuit. C'est pas vrai. T'as l'impression que t'es nul, ce n'est qu'une impression. Il faut jamais s'appuyer sur ces impressions. Bon. Il faut que ça devienne un mantra dans notre tête. Je ne dois pas m'appuyer sur mes impressions. Il ne faut pas que je m'appuie sur mes impressions. C'est ce qui n'est pas commode dans la civilisation bestiale dans laquelle nous sommes. On a tendance à faire ça. Alors, nous en étions donc arrivés. Vous avez des questions donc, sur les dérives? Je crois que on peut quand même passer à un autre passage. Je m'excuse pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes. Hein. On est obligé de prendre ça dans la continuité, hein, nous sommes blessés. Je suis blessé. Je reprends quand même parce que J'ai été blessé, c'est vrai. J'ai fait des rêves. Ah là là, je pense tout le temps, surtout les petites adolescentes, vous savez. Ah, je pense tout le temps à lui, à celui-là, il est pas mal. Je commence à faire des tas. Je fais des projets et tout ça. Et ça, oui, c'est sûrement, c'est une pète. Et là, ah oui, oui, ça c'est génial. Ah, mais puis en plus, ça va marcher. Et puis c'est certainement son projet à lui, d'ailleurs, il est tellement sympa avec moi, etc. D'un seul coup, j'en suis tellement convaincu que je livre mon petit secret, n'est-ce pas? Et puis d'un seul coup, la réponse est dit. Au moment où je vais le dire à la petite adolescente, elle dit, tu sais, je suis amoureuse de ta cousine et comme tu es tout le temps avec elle, c'est pour ça que je t'aime bien. Et oh, bah, je vais te la... Ouais, ça fait un coup, en vrai, ça fait un coup. Alors à ce moment-là, on boude. On boude. C'est vrai, la petite ado, elle boude. Elle dit... C'est marrant, ça. Bon, c'est ces blessures de l'amour. C'est qu'ils viennent de la psychologie, vous comprenez? C'est psychologique, ça. Parce que j'ai engendré tout un monde. L'amour est créateur, hein. Alors ça, on crée des nébuleuses extraordinaires. Souvent très, très belles, en plus. Pour les artistes, alors là, ça c'est multiplié par 10. Alors, alors, ça fait une blessure. La blessure d'amour engendre en moi la souffrance immédiatement. Et cette souffrance, elle est portée dans ma psychologie, dans ma mémoire, dans ma mémoire sensible, dans ma mémoire. Je m'en rappelle de ça, hein. Mémoire affective qui est blessée, mémoire aussi d'appui, ma mémoire d'appui est complètement ébranlée, je suis déstabilisé, phénomène d'inhibition du point de vue donc de l'imagination et de la mémoire et tout ça, je suis bloqué dans mes œuvres artistiques du coup à partir de ce moment-là, etc., etc., je ne peux plus bouger, je ne peux plus sortir chez moi et tout, et, bref, il y a un phénomène très curieux, et finalement, il y a un phénomène de... Il y a un repli sur moi, mais finalement, je me suis trompé. J'en finis par avoir ce qu'on appelle, au bout d'un certain temps, un sentiment de culpabilité. Je me dis, mais alors, Et j'ai honte de moi, quelque part. C'est vraiment humiliant, une histoire comme ça. C'est humiliant. Donc j'ai honte. Et cette honte qu'on a lue dans le livre de la Genèse, c'est ce sentiment de culpabilité. Nous avons tous cette honte. Et c'est cette honte qui... engendre automatiquement en nous cette angoisse. L'angoisse apparaît lorsque la honte de soi, le sentiment de culpabilité, n'est plus, s'est éloigné de l'événement de souffrance, l'événement de non-amour, lorsque ça rentre de plus en plus dans le passé, alors le sentiment de honte se mue en angoisse, parce que je perds le contact avec l'événement de non-amour. Et perdant le contact avec l'événement de non-amour, mon sentiment de honte se mue en angoisse. Et comme l'angoisse est quelque chose de négatif, n'est-ce pas? Très pénible, l'angoisse, ceux qui sont au courant. Moi, j'en ai jamais eu, c'est pour ça que je peux... C'est pour ça que je peux rigoler, mais je sais bien qu'on n'en rit pas. Alors, c'est tellement peu... drôle, tellement négatif que du coup, on automatiquement, si on est très pas mûr sur le plan humain, eh bien c'est le point de vue, c'est la réaction psychologique qui va dominer. Et la réaction psychologique face au caractère négatif de l'angoisse va engendrer la négativité que nous avons vue la dernière fois, donc des dérives, des habitudes vicieuses et des névroses. Donc nous avons vu ce que c'était. Ces névroses, ce sont des constructions, hein, ce sont des constructions pour me cacher. Pas pour fuir l'angoisse, c'est l'angoisse qui est secrète, mais c'est pas pour fuir l'angoisse. Et en même temps, c'est un petit peu pour fuir l'angoisse, il faut reconnaître, qu'on développe des névroses, des habitudes vicieuses, etc. La boulimie, par exemple, nous avons vu, la boulimie, habitude vicieuse. La boulimie, c'est une angoisse Hein? Les gens qui sont boulimiques.
Des blocages.
Ils pèsent 99 kilos. C'est ça? Rien. C'est vrai. Alors, et en réalité, c'est pas tellement pour fuir l'angoisse, c'est ce qu'on croit. On croit que c'est pour fuir l'angoisse, mais c'est pas du tout ça. En réalité, c'est parce que je ne veux pas voir ma faute. Il y a un péché qui venait, il y a un sentiment de culpabilité. Je veux voir ma culpa, ma faute. Mon sentiment, je ne veux pas voir que je suis fautif, que je suis pécheur. Je ne veux pas voir ce côté de sentiment de culpabilité parce qu'il me fait honte. En fait, c'est parce que je veux me cacher à moi-même cette honte. Je suis honteux de moi-même et alors du coup, je rentre dans des trucs où je m'exalte. Alors je m'exalte par exemple dans une névrose, c'est par exemple c'est une fixation. Je me réfugie dans une idée fixe et je gonfle l'idée fixe, je gonfle l'idée fixe, je gonfle l'idée fixe, je gonfle l'idée fixe. Ah, ça, là au moins cette idée fixe, elle a, ouh, elle est belle. Tandis que sinon, je suis honteux. Donc si dans une journée ou dans votre tête, vous avez une obsession, vous pensez toujours à un même truc, attention, c'est un phénomène névrotique. N'allez pas trop loin dans cette direction-là parce que vous allez tomber dans la folie. Enfin, justement, vous risquez. C'est ce que justement je voudrais essayer de voir aujourd'hui avec vous. Comment ne pas tomber. Il faut évidemment adorer. Hein. Ça. Pour revenir immédiatement au corps et à ce sentiment de culpabilité. Je n'ai pas à mourir. Alors, voyez bien, ça c'est ce qu'on a vu. Je n'insiste pas puisque c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Comment se caractérise ce développement de l'angoisse dans les dérives, les habitudes, comment le petit mécanisme, hein, on a vu mécaniquement comment ça se fait, pour bien repérer. On s'est tous reconnus, hein, je pense, hein, la dernière fois. Donc vous avez des cassettes. C'est l'aspect négatif, ça. Mais sentiment de culpabilité, Dieu a tout fait avec nombre, poids et mesure, dans sa sagesse, il est bon, sentiment de culpabilité. C'est pas mauvais du tout, c'est un mécanisme de la nature. Normalement, il devrait se développer de manière positive. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Donc, les développements positifs de l'angoisse, du couple angoisse-honte, c'est que à partir de l'angoisse, si je regarde mon angoisse en face, hein, c'est-à-dire si je ne prends pas immédiatement des anxiolytiques, en disant, j'ai des angoisses, vite, médecin, anxiolytique. Ben, je reconnais, attention, il faut prendre des anxiolytiques, hein, je suis tout à fait d'accord, il faut en prendre, lorsque c'est trop tard. Quand l'angoisse apparaît au départ. Moi, je parle de l'angoisse de l'enfant, l'angoisse de l'adolescent. Lorsque l'angoisse déjà a des racines de développement qui correspondent à 15-20 ans, n'allez pas faire la bêtise si le père a dit pas prendre l'anxiolytique. Hein? Attention. Mais quand l'angoisse apparaît, voyez bien, j'ai un problème, par exemple, l'adolescente dont je vous parlais tout à l'heure, elle est très, 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 très déçue. Elle tombe dans une espèce de déprime, et puis 15 jours après, un mois après, il y a une angoisse. Alors là, il ne faut pas lui donner une anxiolytique. Hein. Évidemment. Vous n'arrivez pas à dormir, mais très bien, ma chérie, c'est excellent, excellent. Elle est jeune, ne vous inquiétez pas. Il faut lui apprendre à dire, bah, ton angoisse, pourquoi? Essayer de revenir à la source de l'angoisse. Tu sais, je t'aime. Revenir à la source de l'angoisse, t'as pas à avoir honte, c'est normal tout ça. Vous voyez bien, c'est ça l'éducation. Et soi-même, accepter l'angoisse comme un miroir, n'est-ce pas? Accepter l'angoisse. L'acceptation de l'angoisse, du coup, va soit dans le contact, le dialogue, etc., avec soi-même, ou avec la mère, ou avec le père, ou avec un ami, etc., va provoquer une réaction extrêmement bizarre, qui est une réaction positive, et qu'on appelle l'agressivité. C'est une réaction positive, ça. Ça veut dire que j'accepte l'angoisse qui est négative, je l'accepte et du coup je développe à partir de là une agressivité. Je dis, maman, attends, hein, tu embêtes, hein. Et il faut que la mère dise, mais non, je t'embête pas. Et c'est bien, insister pour que l'agressivité augmente. N'essayez pas, ne la giflez pas en disant, comment c'est comme ça que tu parles à ta mère là. Et c'est bon, je dis, c'est génial, l'angoisse ne va pas dans la direction de la boulimie, que sais-je. Elle va, tu vois, elle va mettre des cosmétiques, un centimètre de cosmétiques 2 mois après. Tu vois, silence. Vous voyez bien, une première agressivité grâce au dialogue d'amour apparaît. Il faut accentuer cette agressivité. Il faut qu'elle puisse rentrer jusqu'au bout de son angoisse et qu'il y ait cette mutation dans l'agressivité. C'est très bon. Même le petit gosse. Il dit, attention, Jésus n'est pas content, tu te mets en colère. Jésus n'est pas content. Là, là. Vous le culpabilisez encore plus parce que justement, il sort de l'angoisse, et comme ça. Mais ah, c'est fou, et ben, il se réfugie immédiatement. C'est même de l'habitude, et puis il va se tromper, etc. Ah, qu'est-ce qu'il est doux, mon fils, jamais il se met en colère, et Jésus, il l'aime, et il le respecte, etc. Ah oui, mais tu sais pas ce qu'il a développé aussi. Hein? Même le petit gosse, vous comprenez, c'est ça, hein? Le petit gosse, qu'à un moment donné, il y a même petit. Vous savez très bien que, comme Piaget avait fait remarquer, qu'il y a la période du oui dans l'enfant, dans le tout petit bébé, et puis la période du non qui apparaît d'un seul coup, le gosse. On ne comprend pas pourquoi la mère, elle dit toujours, ok, gentil, il dit oui, souris, etc. Puis d'un coup, tiens là, non, je ne sais pas à quel âge, vers 3 ans, je crois, 2. Il y a une période du non qui dure 9 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend. Très bon, excellent. C'est par rapport à toutes les blessures qui sont dues à ce qui s'est passé jusqu'à la naissance, qui développent des agressivités au moment où apparaît le langage. Et c'est excellent parce que cette agressivité lui permet de se mettre à sa place face à l'autre. Il commence à devenir un homme. Il est sorti, c'est la première coupure du cordon ombilical, si je puis dire. C'est là que commence à se construire sa personnalité. Grâce à l'agressivité. Donc, attention, évidemment, il ne faut pas exagérer, c'est toujours pareil. Il faut sentir la mesure à partir de laquelle l'agressivité est le signe d'une mutation positive de l'angoisse. C'est à vous de sentir ça. Il ne faut pas tout permettre dans l'agressivité. Il ne faut pas tout se permettre à un autre. Mais, bon, vous laissez, même si vous sentez que c'est bien pour que la personne se retrouve elle-même dans sa personnalité, et qu'elle se construise du coup sa personnalité, qu'elle soit forte, hein, à ce moment-là, c'est excellent. Je dis, c'est très bien. Réaction violente. Ah, elle réagit violemment. Elle dit, puisque c'est comme ça, eh ben non. Eh ben tac. Voilà. Très bien. Ah là là là, tu boudes. Ouais, arrête. Ça c'est bien. Très bien. Jusqu'à ce qu'elle se positionne, qu'est-ce qu'elle. Eh ben c'est moi. Ah, ça se rebelle. Quand elle dit, bah oui, moi c'est moi. C'est tout. Ah ben, voilà, ça y est, c'est gagné. Moi, je vais faire. Et si c'est le petit gosse, il va dire ben, moi, je vais jouer. Arrête, ça c'est gagné. Mais après, s'il se remet en. S'il en profite en disant tiens, ça a marché et qu'il se met en colère, attention, c'est là que vous pouvez le punir. Parce qu'à ce moment-là, cette nouvelle colère vient de son moi. Elle ne vient pas d'une évolution positive de son angoisse. Elle vient de son moi. À ce moment-là, vous le corrigez en disant non, c'est toi que je veux. C'est pas le péché. Parce qu'ici, il se réengendre dans un sentiment de culpabilité sinon. C'est subtil, hein? Mais c'est facile à repérer. Hein. En fait, dans la pratique, c'est facile à repérer. Sur un tableau, évidemment, ça paraît abstrait, mais. Donc, première chose positive, c'est l'agressivité. Puis, vous avez d'autres manières dont l'angoisse va engendrer le point de vue de la positivité. C'est comme vous l'avez ici, le point de vue du repentir. Au lieu, si l'agressivité n'est pas permise, alors on va se réfugier dans la négativité, des idées fixes, le rêve, les compensations, etc., les mauvaises habitudes. Et sinon, si l'agressivité est permise, cette agressivité, cette agressivité va s'amortir dans une espèce de tristesse. Mais c'est une tristesse au fond d'amour en disant, mais finalement. Je me suis mal pris, quoi. Alors, c'est une tristesse d'amour. Tandis que ici, quand je pleure ici, c'est une tristesse de masturbation, c'est pour montrer que j'existe. Alors je me lamente sur moi-même, je me caresse, je pleure. Qu'est-ce que je suis malheureux, je pleure. Il y a deux sortes de larmes ici. Hein. Il faut repérer quand c'est une larme, des larmes de repentir sur moi-même. Mais grâce au repentir, je me retrouve moi-même en moi-même. Voyez bien, si je développe le point de vue uniquement négatif du sentiment de culpabilité, je vais en finir par dire, par développer uniquement l'aspect du sentiment de culpabilité par lui-même, tout va se résorber dans le phénomène honte, angoisse, et puis fuite de soi. Pourquoi ? Parce que, au fond, je me haïs moi-même. Pourquoi ? Parce que je suis zéro. Je suis nul. Je suis honteux de moi-même. C'est moi qui suis condamné. C'est moi qui suis condamné. Donc, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Névrose. C'est pour ça que les psychanalystes, quand ils nous reçoivent, puisque nous allons tous voir les psychanalystes, ils disent, mais non, c'est pas votre faute. Bien sûr que c'est pas votre faute. C'est la faute de ton papa, c'est la faute de ta maman, c'est la faute de machin. C'est pas ma faute. C'est la faute. C'est pas la faute à ce que j'ai fait, c'est la faute à ce que je suis. Et ce que je suis, ça vient pas de moi, ça vient de mes parents. En réalité, ça vient de Dieu. Parce que qui a fait que je suis moi ce que je suis ? C'est Dieu. Et donc tout ce phénomène revient finalement à un circuit où je condamne Dieu parce qu'il m'a fait une chose mauvaise qui est moi. Au lieu de condamner mes actes, c'est mes actes qui sont mauvais et moi, je suis bon. N'est-ce pas ? Dieu est là, resplendissant. Moi, je suis bon au centre de moi-même. Je suis à moi-même plus que tout ce que Dieu a aimé dans toute la création, dans tous les temps, dans tous les lieux. Et ça, c'est la vérité, ça. La preuve, il a envoyé son fils. Pour moi, seul. Et au centre de moi-même, il y a l'innocence, la sainteté unique. Personne n'est aussi saint que moi du point de vue de ma sainteté. Et ça, c'est vrai. Et du point de vue, je veux dire, de la sainteté de Dieu. Alors ça, je ne peux pas le comprendre psychologiquement. D'accord ? Et ça, ce n'est pas la vérité. Par contre, j'ai fait des actes qui sont des accidents par rapport à l'infini amour qui est au fond de moi. L'infini trésor qui est au fond de moi. L'infini richesse que Dieu il ne regarde que ça, évidemment. Il ne regarde pas les actes. Mais moi, je dois regarder que c'est mes actes qui sont mauvais. Ce n'est pas moi qui suis mauvais. Ça va ? Claire ? C'est clair. Claro ? C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, on continue. C'était par gentillesse pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ni les deux fois précédentes, qu'on a recommencé. Aspect positif. Des sentiments de culpabilité. Alors, comment positivement je vais accepter ? Comme je vous le disais, je vais accepter de traverser l'angoisse. Ou si vous préférez, peut-être qu'il ne faut pas mettre angoisse ici. Il vaut mieux mettre une certaine peur. J'ai peur d'aller plus loin dans l'affrontement de la souffrance que je vis. Je n'ai pas envie d'accentuer cette souffrance, donc j'ai peur. Il faut accepter d'aller au-delà de cette peur. Et alors à ce moment-là, apparaît, face à cet appel de l'angoisse à m'engager dans cet affrontement, c'est là qu'apparaît donc justement une espèce de colère, parce qu'il y a une injustice quand même quelque part. Alors, je me suis fait injustice à moi-même, mais je l'attribue aux autres, pas à Dieu. Mais... Alors du coup, il y a cette agressivité qui apparaît. Et donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, apparaît donc cette agressivité permet la constitution de mon moi ou de ma personnalité. Vous voyez, un enfant qui ne s'est jamais permis dans sa tête, quelque part, ne serait-ce qu'un tout petit peu, d'exprimer, ça peut se faire dans une prière, hein, devant Jésus, devant un confident, un prêtre, je ne sais pas quoi. d'exprimer cette agressivité par rapport, par exemple, à son père. Souvent, il y a des gens qui ont eu peur toute leur vie de leur père. Ils n'ont jamais exprimé cette révolte, au fond, psychologique. Hein. Il y a une petite révolte. Mon père, il m'a terrorisé, quoi. Pas trop. Mais au moins un peu. Crever l'abcès, que la chose soit dite. Au moins une fois. Pas trop, parce que si c'est trop, attention. Le but, c'est de mettre la faute sur mon père. Il ne s'agit pas de mettre la faute sur mon père. Il s'agit de dire cette angoisse relationnelle par rapport à la blessure de non-amour, pour que ce soit dit, pour que je puisse réagir et être du coup face à mon père, au lieu de rentrer dans le nuage, n'est-ce pas, dans le buisson d'épines. Je me mets en face de la chose, cette agressivité. C'est bon, ça, de faire ça. Il ne faut pas que ce soit continuel, l'agressivité. Tu comprends? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est négatif, si vous voulez. C'est psychologique, une agressivité continuelle. Hein? C'est pas vrai? Alors, il ne faut pas... Mais c'est bien qu'il y ait cette agressivité. Si, par exemple, j'ai une agressivité continuelle avec mon mari, c'est peut-être parce que je n'ai jamais développé une agressivité vis-à-vis de mon père. Alors, du coup, c'est continuellement sur son mari, sur mon mari, que je développe l'agressivité. En réalité, mon mari, il est pour rien du tout. C'est parce que moi, je n'ai jamais voulu accepter l'angoisse qui me vient d'une relation avec mon père. Mon père, c'était un saint, alors je vois pas pourquoi je me mettrais en colère contre lui, etc. Et pourtant, il y a des fois où j'étais exaspéré, parce qu'il ne réagissait pas, il était trop bon, il ne réagissait pas, mais enfin, je sais pas quoi, hein, j'en sais rien. Bon, donc cette agressivité, si vous voulez, elle est bonne. Il faut se permettre de temps en temps ça, n'est-ce pas? Là, j'ai ma petite sœur qui s'appelle Mamourine, qui a 7 enfants, alors... On a dit qu'il y a un de ses enfants, quel que soit leur âge, hein, 18 ans, 15 ans, 12 ans, 8 ans, etc. Il y en a 7. On a dit qu'il y en a... Bon, allez, allez Maglone, hein. Bon, maintenant, bon, je trouve que tu pourrais m'aider à faire, je sais pas moi, arranger ta chambre ou quelque chose. Et puis quand Maglone commence à s'énerver, en disant « Maman, tout le temps tu me demandes, vas-y ma chérie, allez, rentre dans ton agressivité, vas-y, oui tu m'énerves, arrête avec tes bêtises et tout ça, vas-y ma chérie, là t'as fait, là très bien, continue, c'est bien. » Et au bout de Maglone, elle va jusqu'au bout de son agressivité, grâce à quoi? Effectivement, elle ne se transforme pas quelque part en colère, c'est une agressivité, elle dit « Bon, puis elle va dans sa chambre, c'est gagné. » Et je peux vous dire que les gosses de Mamourine, il n'y en a aucun qui est névrosé. Hein. Mais s'ils exagèrent, qu'ils redescendent en disant... ils redescendent tous de l'escalier en disant cajolé, « Ah, maman, je t'aime, je n'aime que toi. » Alors c'est Mamourine, à ce moment-là, je dis « Arrête, tu m'énerves !» Elle a envie de... Oui, c'est vrai. Mais s'ils redescendent... avec des injures vis-à-vis de la mère, alors à ce moment-là, maman, il ne la rate pas, ça c'est sûr, c'est évident. Bon, vous voyez, quand on aime son gosse, de toute façon, c'est automatique, c'est pas parce qu'on connaît le mécanisme qu'on va faire comme ça, c'est pas une méthode, vous comprenez? Mais dans l'amour, c'est immédiat qu'on fasse comme ça. Hein? Allez bien. Bon. L'enfant qui ne se défend pas ne se constitue pas. Un enfant qui ne se défend pas contre sa mère, contre son frère aîné, contre sa maîtresse, etc., eh bien, ne se constitue pas. Et c'est très mauvais signe. Ça, une des carences de l'éducation, c'est peut-être justement cette carence de l'éducation de l'irascible, là. Souvent, je dis ça aux mères de famille quand elles ont leur premier bébé. Je dis, faites très attention aux préparations au mariage. Faites attention à votre premier bébé. Le deuxième, il n'y aura pas de problème. Mais le premier, vous avez tellement de schémas complètement idiots, faux, que vous allez vous tromper. Elle dit, si votre enfant, eh ben, il pleure trop, eh ben, laissez-le crier. Pas longtemps, 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 longtemps. Pas pendant 3 heures de suite, mais un bon quart d'heure. C'est long pour un bébé qui crie tout seul. C'est long, un quart d'heure. Laissez-le crier. Il fortifie son irascible. Précipite. Mais non, vous savez, vous avez la petite prise. Comme ça, on entend le bébé dès qu'il pleure. Whoop! Et ça va faire un gosse. Oh, sans aucune force. Aucun irascible. Incapable de se défendre. Contradiction hein, qui s'affronte à une mère qui est enceinte. Et toujours, jamais, on est même la Vierge Marie, je dirais, hein, puisque on veut, elle doit faire le voyage de Nazareth, les empereurs de Rome, les envahisseurs qui disent il faut aller là, c'est pénible tout ça, hein, et puis ils sont pas accueillis. Enfin bref, il y a des contradictions quand même hein, quand la femme est enceinte. Et ça se répercute sur l'enfant qui est au fond. Et bien, quelquefois, quand c'est des jumeaux, il y en a un qui fait un choix de vie par rapport à ça. Et un autre qui développe un choix de mort. Les deux jumeaux, ils ont la même constitution, la même mémoire génétique, les mêmes chances, le même patrimoine énergétique, le même champ magnétique, le même champ tachyonique, tout ça. Le même champ de force, etc. Les mêmes affections du père et de la mère, ça c'est évident. Mais il y en a un qui va mourir avant la naissance, comme ça, on ne sait pas pourquoi, et l'autre, en pleine forme. Ce qui montre bien que il y a des choix. C'est un choix que fait l'un et que l'autre ne fait pas. C'est pas un choix intelligent, c'est pas un choix réflexif, c'est pas un choix affectif, c'est pas un choix du cœur, c'est pas un choix de la volonté, bien sûr. Mais c'est un choix qui se réfère ici à la responsabilité, quand même. Parce que ça, la mémoire spirituelle existe. C'est le lieu de la responsabilité par rapport précisément aux blessures. Alors, c'est l'enfant qui fait un choix de mort et qui meurt, il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable puisque c'est pas de sa faute, c'est pas de sa volonté et c'est pas réfléchi son acte. Donc il n'est pas coupable, mais il est responsable. Responsable, mais pas coupable. Hein? Et donc quand on entend ça en politique, hein, ça revient à dire que je ne suis pas plus adulte que celui que l'embryon de 5 mois. Parce que c'est après, quand apparaît l'exercice de l'intelligence et du cœur, qu'il y a une possibilité d'être... que la responsabilité est toujours liée à la culpabilité. Alors, donc si on n'a pas la maturité supérieure à celle de l'enfant qui a 5 mois, il vaut mieux pas être responsable politique. Alors... Eh bien, ce choix de vie va permettre de faire basculer l'angoisse qu'engendre mon sentiment de culpabilité du côté positif ou du côté de son aspect négatif. Il ne faut pas dire du tout que c'est de ma faute si je suis dans le péché, etc., dans des habitudes vicieuses. Il ne faut pas dire que c'est ma faute. Mais je suis quand même responsable. Je suis responsable. Et voyez, par exemple, ici, en ce moment, on est en train de regarder tous ces mécanismes. Le fait simplement de regarder ces mécanismes vont faire que non seulement je serai responsable, mais que si je continue, je vais devenir coupable. C'est pour ça que vous êtes maso, là. Hein? C'est ce qu'on, justement. Et c'est tout le but, c'est de faire passer, justement, nous faire passer ici de ce jeu qui est là, le sentiment de culpabilité, à un jeu nouveau où la responsabilité et la culpabilité se retrouvent ensemble dans la conscience de culpabilité. C'est ce que j'aurais voulu. Moi, c'était mon projet, c'était de faire ce deuxième tableau, mais je vois qu'il faut, bon, tant pis, terminer. Je voulais tellement... Ça fait rien. On va continuer. Donc, si je refuse l'angoisse qui est la croix de ma condition, les limites de ma personnalité... Si je me refuse dans mes limites, je me refuse aussi dans mon être. Forcément. Alors à ce moment-là, je vais développer l'aspect négatif Et nous avons donc vu l'aspect négatif l'autre jour. Donc, un enfant qui ne se défend pas ne se constitue pas. C'est Saint Paul qui dit, alors je ne me rappelle pas le passage, mais j'avais noté ça dans mes... Il n'y a pas d'être spirituel qui ne se construise sur l'être psychique. Où est-ce que c'est, là, les doctes, hein? Je ne sais plus si c'est dans l'épître aux... Ça ressemble à l'épître aux Romains, ça, mais enfin, peu importe. Il n'y a pas d'être spirituel. Notre vie spirituelle se développe sur le terreau du monde psychique, de l'être psychique qui est en nous. Et c'est justement ce que nous regardons, c'est cette construction, c'est ce terreau de l'être psychique qui est en nous, qui est ici, sur lequel se bâtit notre responsabilité spirituelle. Et on essaie de le comprendre. L'angoisse, si j'accepte les limites de mon monde, de mes sentiments, de mes impressions, de mes angoisses, en comprenant que ça n'a rien à voir avec ce que je suis, ce ne sont que des impressions, ce ne sont que des développements qui relèvent du psychologique, donc fondamentalement de l'illusoire. C'est fondamentalement à partir de l'illusion, le fameux Maya hindou, n'est-ce pas ? Ça, c'est vrai, l'angoisse est bien réelle quand je la ressens. Mais son origine, son fondement est illusoire. Il est dans le monde psychologique. Donc, je l'accepte comme étant quelque chose qu'on doit dépasser, qui ne me définit pas. Si ça me définissait, ça voudrait dire que je suis un échec de la création, je suis un démon, quoi. Enfin, je suis un mal. À moi tout entier, je suis quelqu'un qui est mal. Et quelquefois, je le pense. Pourquoi ? Parce que mon père, ma mère, ils m'ont dit, toi, t'es un brigand. Et toute ta vie, tu courras dans les rues. La seule chose que tu seras capable de faire, c'est d'être balayeur des rues. T'es un menteur. J'ai menti une fois, et du coup, je suis tout entier menteur. Tu es un menteur. Jamais dire, tu es un menteur. Il faut dire, tu as menti. C'est pas pareil. Faut pas dire t'es un brigand, t'es un salaud, etc. Non, faut dire là tu m'as fait de la peine. Là, quand tu as fait ça, tu m'as fait de la peine. Mais l'enfant, lui, il voit sa mère et son père qui le regardent en disant t'es un brigand. T'es un salaud. Alors, mais ça, ce n'est pas vrai. Mais quand je découvre que mon angoisse n'a pas de fondement, alors à ce moment-là, je passe à travers cette angoisse et j'accepte de la dépasser parce que je choisis de vivre de mon fondement. Je décide de vivre de l'amour à partir duquel qui me constitue dans ce que je suis, n'est-ce pas ? Alors, si c'est ça, je redécouvre que du coup, ma réaction était obsolète, n'est-ce pas ? Et je me repens de m'être plié sur moi-même dans l'angoisse. Et du coup, j'accepte de revenir à l'amour que j'avais perdu et c'est là que j'en pleure. C'est ce qu'on appelle le repentir. Si j'avoue le véritable niveau de mon péché, alors l'angoisse s'en va grâce au repentir. Quelqu'un qui a une angoisse, c'est quelqu'un qui n'a jamais développé des sentiments de contrition, de repentir. Mais grâce à l'angoisse, je peux rentrer dans le repentir. Si aussitôt que j'ai l'angoisse, je prends des anxiolytiques, je me l'interdis. Le repentir m'ouvre à ce moment-là sur le chemin donc de l'identité personnelle, puisque je retrouve mon identité, mon vrai fondement, donc mon origine, tandis qu'ici, ma personnalité qui se construit avec le temps, grâce à l'agressivité, c'est la construction de ma personnalité. Grâce au repentir, je retrouve mon identité. Mon identité personnelle. Et dès que je suis dans mon identité personnelle, aussitôt, je vois que je suis en relation avec l'autre. Je suis en relation notamment avec Dieu. Alors, autre aspect positif Vous l'avez sur le tableau, c'est la prise de conscience. La prise de conscience est un autre aspect positif de mon identité qui est restée toujours innocente, pure, et qui n'a pas été atteinte par quelconque trouble ou mauvaise chose, si vous voulez. Elle n'a jamais été détruite, simplement oubliée, c'est tout. Et cette prise de conscience va permettre, de mon innocence, toujours là, présente, vivante, agissante, disponible à un amour toujours plus grand, même si elle est arrêtée, eh bien, cette prise de conscience va pouvoir m'ouvrir au pardon donné. C'est-à-dire, je vais pouvoir pardonner. C'est un des gros avantages, donc, de l'angoisse. C'est grâce à l'angoisse, donc, ah, je ressens cet appel à aller plus loin dans l'ordre de la force intérieure. Deuxièmement, je me repens de m'être replié sur moi-même dans un sentiment du reste d'agressivité ou de culpabilité ou de repli sur moi. Et par conséquent, je me repens, je reviens. Je reviens à mon innocence divine et je vois que si elle a été arrêtée, très bien, eh bien maintenant, je ne veux pas qu'elle continue à s'arrêter et je pardonne. C'est possible à ce moment-là pour moi de pardonner. J'ai un premier mouvement d'agressivité par rapport à mon père, un deuxième mouvement de repentir, un troisième mouvement, je lui pardonne. Hein? Et je vous assure que c'est vrai, hein? Une femme qui est agressive continuellement avec son mari, qu'elle n'a pas développé son agressivité par rapport à son père, parce que c'est le premier mari d'une petite fille, c'est son père, vous savez bien, au niveau psychologique, pas au niveau spirituel. Alors à ce moment-là, si elle ne l'a pas fait, ben effectivement, ça va se développer. Alors du coup, sa personnalité va pouvoir retrouver son état de petite fille, regarder à nouveau son père, se repentir peut-être de ne pas avoir aimé son père correctement. Elle a peut-être aimé de manière symbiotique. Voyez ? Et elle va à nouveau développer cette relation avec son père, même si c'est 50 ans après. Elle va pardonner à son père, elle va pardonner à Dieu. Mais c'est sûr, quelqu'un qui développe une agressivité continuelle, c'est normal qu'elle ait ce sentiment qu'elle n'est rien du tout, qu'elle est nulle. Hein. On est vraiment dans le premier schéma. Donc il faut accepter de donner le pardon, c'est le troisième aspect positif. Et c'est grâce à l'angoisse que la profondeur de ce don et de ce pardon donné c'est en fonction donc de l'intensité de l'angoisse, que la qualité du pardon à l'autre, c'est ça qui va structurer, pardon, la qualité du pardon à l'autre. Plus l'angoisse est puissante, forte, tenace, plus notre capacité à donner le pardon sera grande, profonde, sainte. Donc c'est une chance supplémentaire. Enfin, quatrième porte positive qui permet à l'angoisse de donner tout son fruit, c'est que ma souffrance reprend un sens. L'angoisse, c'est que ma souffrance, je n'y comprenais rien, j'ai été buté, ça m'a été confronté à cette tristesse, à cet non-amour, parce que je m'étais fait peut-être des tas de projets, des tas d'idées, etc., c'est possible. Bon, je reçois l'évidence que ça ne marche pas, ce n'est pas ça, mon attente est déçue. Et du coup, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, une souffrance qui n'a plus de sens, c'est insensé, comme on le dit bien dans le jour. C'est insensé, j'y comprends rien. Et vous êtes complètement perturbé, désorienté. L'angoisse, c'est ça. L'angoisse, c'est quand vous avez une souffrance et vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas où ça va. Vous ne comprenez pas d'où ça vient, ça, cette angoisse. Si vous saviez d'où ça venait, ce ne serait pas une angoisse.
On peut poser une question.
Ah oui, je comprends.
Mais attention, c'est quoi ça?
Oui.
Parce que ce que je trouve, c'est que ça me fait un petit peu de l'estime. Je lis des millions de personnes, c'est votre schéma. Il ne manque pas, c'est important, dans mon sens, les relations interpersonnelles. C'est-à-dire, l'agressivité, c'est bien beau, ça permet à la personne de se construire, mais à ce moment-là, elle peut blesser autrui et on refait le cycle.
Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, si ça, tout ça s'inscrit normalement dans une relation d'amour.
Oui, mais la personne et... peut être blessée.
L'autre.
Celle qui se sent injustement agressée.
Oui.
Donc, elle développera elle-même son propre circuit. Alors, on recommence le circuit.
Oui.
Et deuxième point de vue, c'est que cette quantité d'agressivité que l'on peut admettre ou ne pas admettre, elle dépend énormément de la culture, non seulement de la culture.
Oui, c'est des conventions.
D'un peu à l'autre, mais d'une famille alors.
Oui, de la convention, oui. De la...
Oui. Alors, d'où encore source de blessure, si vous voulez. Je donne deux exemples.
Et c'est pour ça, justement.
Si vous voulez, en français, surtout dans les journaux, on peut aller très loin dans l'engueulade. Bon, je travaillais en Amérique latine, avec des messieurs là pour ne pas le citer, et on était un petit groupe de français, et puis souvent, ça arrivait quand même de l'air, la voix montée, partait même de la salle de réunion, etc. Et bien, il y avait des comme ça, mais nous, un truc comme ça, on sort plus haut. Donc, il y a un autocontrôle. Non, ça veut dire ce que le type m'avait dit, nous, on ne le fait pas parce que dans une pistolet, où le couteau sort tout de suite. Donc, ça peut exister une famille à l'autre. Là, je prends un exemple beaucoup plus personnel. Vous voyez, dans ma belle famille, nombreuse, l'agressivité va assez loin. Ils s'aiment beaucoup, ils sont très solidaires, mais pas ce qu'ils peuvent se dire. Moi, j'ai une famille beaucoup plus nombreuse, on était très, au contraire, si vous voulez, ça n'allait jamais dans ce genre d'accrochage. Donc, si vous voulez, je vois moi-même certains de mes beaux-frères sont blessés parfois par le comportement de nos épouses respectives, qui elles ne voient pas du tout, puisqu'elles se parlent en beaux-frères de la même façon. Donc, si vous voulez, il y a aussi quand même, il faut tenir compte de l'impact. On construit sa personnalité, il ne faut pas que ça ne dépend d'autrui, parce que c'est l'autrui qui va souffrir, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Alors, moi, je dis toujours, il faut détourner l'agressivité contre quelqu'un qui ne peut pas souffrir parce qu'il est absent.
C'est pour ça que...
Tape sur Hitler, tape sur les Juifs, tape sur les sociaux.
Non, c'est pour ça que ce tableau, effectivement, pris comme ça, il peut vous dire, ah oui, mais faites attention, c'est vachement dangereux votre truc. C'est vrai, mais l'aspect positif de l'angoisse à partir du sentiment de culpabilité développe ou bien son aspect négatif en bloc, ou bien son aspect positif en bloc. Donc l'agressivité, si elle est vécue de manière normale, dans son aspect vraiment positif, il se développe en même temps le point de vue de l'identité, de l'altérité, en même temps celui du pardon donné, qui amortit immédiatement l'agressivité. C'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure. Hein. C'est que si ça, cette agressivité, elle continue, si vous voulez, à ce moment-là, elle devient blessante. Mais si cette agressivité se mue...
Qui blesse, varie, suivant les
cultures. Ah non, mais ça, c'est très possible. Mais il faut... Oui, mais parce que le degré, donc, d'unité entre le pardon et la prise de conscience, si vous voulez, varie selon les cultures. Il y a une immaturité qui se fait. Dans une civilisation chrétienne, c'est normal que la délicatesse veuille que le degré d'agressivité soit réduit au minimum. Hein? C'est un peu normal, parce que cette agressivité, dès que j'ai ne serait-ce que le sentiment d'agressivité, bah, je peux le dire à Dieu déjà. Seigneur, il me fait chier celui-là. Et tant que ça suffit, on dit, oh, tout de suite, j'accepte le repentir, je retrouve la sainteté de Dieu qui dit, mais moi je l'aime autant que toi, autant que tous, autant que ma mère. Et du coup, je lui pardonne. Vous comprenez, c'est presque immédiat. Vous voyez bien, c'est une seule phrase, cet aspect positif. Et j'arrive donc au quatrième aspect de la positivité.
De façon aussi alors, naturelle, c'est la saison sur des objets. En fait, je me coupe le pied dans la chaise.
Oui, mais c'est justement... Je suis désolé, mais c'est un système... par exemple, hier, on a eu une petite expérience avec Rosie. Oui, tout à fait. Où on a fait développer l'agressivité, on prend un coussin, etc. C'est le système d'Elisabeth Kubler-Ross, tu prends un coussin, tu mets le... C'est psychique, ça, vous voyez bien. Bon, quelqu'un souffre beaucoup. Elle a été blessée, complètement. Et d'ailleurs, elle a le sentiment que vraiment, c'est la dernière des dernières. Hein. Bon. Mais attention. Moi, Elisabeth Kubler-Ross, elle va dire... New Age, hein. Enfin, attention, ne dites pas aux gens, Elisabeth Kubler-Ross égale New Age, donc égale Antichrist, égale démon. Hein. Mais je vais vous dire en quoi justement c'est ici qu'on peut expliquer ce qu'il y a de génial dans son intuition, et en même temps ce qui est dangereux. C'est pas parce que c'est dangereux que c'est mauvais. Elle dit, il faut faire attention. Elle dit, bah oui, si tu es blessé, alors à ce moment-là, on te met dans un cercle, comme ça. Imaginez que nous soyons tous ensemble. Je vous explique. Et puis, il y en a un qui, du coup, a envie de se mettre au milieu. On met un tapis, une moquette, comme dans les tapis judo, c'est pas, au milieu. Et on regarde, et la personne explique sa souffrance, ses larmes, son dépit, etc. Et à un moment, elle dit, ouais, mais c'est lui, il m'a tellement... vous sentez à un moment donné, on sent à un moment donné, hein, on a senti hier, hein, qu'à un moment donné, ça allait aller ou bien vers les larmes en disant j'en peux plus, ou bien vers l'aspect négatif, ou bien vers l'aspect positif de l'agressivité. À un moment, on a senti très très fort que c'est ça. Je parle juste aux trois personnes qui étaient présentes. Alors à ce moment-là, je vais faire Elisabeth Kubler-Ross. J'ai pris un coussin, je dis voilà le coussin, allez, c'est lui. Tape plus dessus. Oui, non, c'est l'aspect. Oui, c'est psychologique de faire ça. C'est psychologique comme ça. Normalement, Elisabeth Kubler-Ross, elle demande à Otip, elle lui donne un matelas, elle lui dit tape, prends des. Et elle lui dit tape sur ton père, vas-y, fais tout ce que tu veux. Alors des couteaux, des machins, des. Mais ça peut durer une heure d'hystérie, tout se développe là-dessus. Alors à ce moment-là, vous voyez bien, moi je l'ai fait juste pour déclencher l'agressivité, ne serait-ce que quelques secondes. Et puis tout de suite après, on est parti. Hein? Mais Elisabeth Kubler-Ross, tant qu'elle le fait développer jusqu'au bout, pour qu'elle puisse se dégager de son angoisse. Ah, à ce moment-là, après, on se détend, on pleure dans sa chambre. Pendant 24 heures, c'est ça, les groupes d'auto-expérience d'Elisabeth Kubler-Ross, c'est comme ça qu'ils font, pendant 7 jours de suite. Et tout le monde y passe. Et vous, vous dites, moi, jamais, quand vous voyez les premiers qui passent, jamais je vais faire un truc comme ça. Mais comme les gens développent et expliquent leurs problèmes, etc., vous, ça réveille des tas d'histoires en vous, ça réveille des tas d'histoires. C'est tellement émouvant, c'est tellement grave, que quand, à un moment, vous craquez et vous allez au milieu et vous faites pire que les autres. C'est curieux, ces groupes d'auto-expérience. Et ça, bon, vous comprenez bien que cette blessure terrible, que provoque le sentiment de culpabilité, l'angoisse, eh bien, vous allez la résoudre de cette manière-là, en prenant donc quelque chose de physique et en réagissant dans une agressivité par le point de vue donc du soma. Vous prenez quelque chose de physique et vous demandez, donc c'est dans cette direction-là que vous allez pour la résolution du problème de l'angoisse. Vous passez à travers l'angoisse, mais dans la direction de la psyché vers le soma. Tandis que tout ce que nous voulons essayer de comprendre, c'est comment on apporte la résolution du problème, donc de l'angoisse, du sentiment de culpabilité, en revenant vers l'innocence initiale, l'identité. C'est quand même pas pareil. Alors, bien sûr, d'accord, qu'on intègre un tout petit peu le point de vue de l'extériorité, d'accord, d'autant surtout si les blessures ont été d'ordre physique. Bon, c'était le cas. Hein? Mais en comprenant bien qu'il faut immédiatement revenir au repentir, à la proposition de la confession, de la contrition, de faire naître une contrition, du retour à sa vocation, à sa sainteté. Voilà ça. C'est ça qu'on essaye de faire, de ne pas rentrer dans la tentation de New Age, vous comprenez, mais de faire qu'une soif spirituelle ardente, déçue dans ma blessure psychologique, soit résolue dans une ardeur, une multiplication, une surmultiplication de cette résolution d'angoisse dans la relation avec la puissance infinie que représente toute ma soif pneumatique. Dans un monde qui reste psychosomatique. C'est ça, le métapsychique. Mon psychisme est surmultiplié. Alors, alors il y a une certaine libération, je me sens libéré après. Hein. Oui, mais aucun repentir, rien. La fois suivante, c'est pas plus fort. La fois suivante, c'est plus fort. Donc, quatrième aspect positif que vous avez sur votre tableau, c'est que du coup, votre souffrance prend un sens. Ah, votre angoisse, grâce à votre angoisse, vous êtes à nouveau relié à votre soif d'amour. Quelle soif d'amour avait été déçue par cette souffrance, cet événement de non-amour, et donc vous retrouvez quelque part, même si vous ne vous rappelez pas exactement, mais vous retrouvez quelque part le lieu où vous avez reçu la blessure, donc la vraie, la véritable lieu de la blessure, et du coup, votre souffrance ou son développement ultérieur prend un sens. Et vous savez que si vous souffrez et si vous avez une angoisse, c'est pour pouvoir aimer plus encore que si vous n'aviez pas été blessé. C'est un appel à aimer plus. Le temps donné à la souffrance, à nos blessures, à la séparation, pour un plus grand désir de Dieu, pour un plus grand désir d'amour pur, pour une ouverture à l'espérance. Bien évident que sans le péché, la vertu théologale d'espérance n'existerait pas, si je puis dire. Et la vertu théologale d'espérance nous fait aller dans la sainteté, dans une sainteté infiniment plus grande que celle d'Adam, qui était sans espérance, puisqu'il était en état de grâce originelle. Infiniment plus grand. Vous savez que c'est par l'espérance que la grâce sanctifiante augmente dans notre âme. C'est par l'espérance. Parce que l'espérance, c'est j'ai confiance éperdue. J'ai une confiance totale, Seigneur, qu'en ce moment, tu me donnes ta grâce sanctifiante. Vous connaissez votre acte d'espérance. Eh bien, c'est l'augmentation. J'ai une confiance totale, Seigneur, qu'en ce moment, tu me donnes un déluge, une plénitude, des torrents, un océan immaculé de grâce sanctifiante. J'ai une confiance totale en ce moment. En ce moment, Seigneur, tu me donnes une grâce, des torrents. Et la vie éternelle dans l'autre monde. C'est ça, la formule de l'acte d'espérance que vous apprenez aux enfants en catéchisme. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce au fondement de bonheur éternel dans l'autre. Hein. Bon. Bon, dans tout ça, c'est un jeu psychologique. Mais quelle est la réalité spirituelle sous-jacente au sentiment de culpabilité, puisque ça se manifeste par nos impressions. L'impression, ça se manifeste par l'angoisse. Donc nos impressions sont dominées par l'angoisse ou la tristesse, etc., ou l'idée fixe. Mais la réalité spirituelle sous-jacente, ce que j'essaie de vous expliquer depuis deux ou trois fois, j'espère qu'on va finir par s'en sortir. Si ça l'embête, on s'en sort plus. Alors, donc, quand on l'explique, c'est encore pire. Alors, la réalité spirituelle sous-jacente, c'est que j'ai perdu ma vocation. C'est ça qu'il faut comprendre. Dès que je me sens perdu, désorienté, etc., c'est tout simplement que je me suis quitté, je me suis séparé de ma vocation. Je me suis séparé par mes actes, je me suis séparé de ma vocation. Et donc, je dois faire des actes pour retrouver ma vocation. Ma vocation, c'est de m'unir à Dieu, qui est au centre de mon âme et qui, avec moi, m'emporte vers le Père et vers les autres. C'est ça, ma vocation. Et comme j'ai quitté par mes actes cette vocation, il y a toute cette désorientation, angoisse, névrose. Eh bien, c'est ça, la spiritualité. Il signifie donc que je suis en état de lutte, de révolte psychologique. Parce que moi-même, je ne peux pas supporter d'être en dehors de ma vocation. Alors, je suis en conflit avec moi-même. C'est ça, la vérité spirituelle sous-jacente. Et si je fuis cette vérité spirituelle sous-jacente, je vais forcément dire, « Ah ben, je suis en conflit avec tout le monde. » Je refuse de voir que c'est avec moi que je suis en conflit, en fait. Que je suis en conflit avec ma vocation. Et la vérité, en conflit avec Dieu, par mes actes. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que naît la prise de conscience du combat spirituel. C'est ça. Et c'est en ce sens, c'est peut-être la chose la plus grande du sentiment de culpabilité, c'est qu'il me fait rentrer dans le combat spirituel. Et donc, c'est très bien d'avoir été entièrement pris, et nous sommes tous sujets, j'allais dire, au sentiment de culpabilité et à tous ces développements. Voilà. Et finalement, cette angoisse profonde, son explication spirituelle sous-jacente et cachée, c'est la peur
de l'enfant qui est coupé de Dieu, qui est coupé de son père, qui est coupé de sa mère. Et en réalité, je sais que par mes actes, je me coupe de Dieu, quelque part, et ça me met dans la peur. Et l'angoisse exprime cette peur d'être coupé de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit souvent, hein, que quand vous êtes en angoisse, sentiment d'angoisse, etc., faites un jugement d'existence, faites un acte d'adoration, pénétrez en Dieu, restez là. Si vous n'y arrivez pas, vous lisez l'Apocalypse pendant une demi-heure, puis après vous faites un jugement d'existence, et vous faites l'acte d'adoration. Ça m'étonnerait que vous ayez ne serait-ce qu'un petit quelque chose d'angoisse. Vous dites une demi-heure d'Apocalypse, un acte d'adoration, 3 minutes suspendues comme ça dans l'adoration. Vous revenez sur la terre, vous revenez plutôt au ciel, parce que là, ça, c'est notre terre de faire ça. Donc vous revenez dans l'imaginaire, dans l'illusion de ce monde, et vous verrez que l'angoisse a disparu. Pas besoin de prendre un téléphone. Prendre un téléphone, c'est une musique. Attention, j'ai pas dit de prendre pas d'anxiolytique. Parce que oui. Bon. Pardon. Non, mais c'est ce que je vous dis. Lorsque ça fait, vous en prenez par exemple depuis quelques mois, depuis 2 ou 3 ans, des médicaments. Il paraît que 40% des Français prennent des anxiolytiques. Hein, donc la moitié d'entre vous, vous prenez des anxiolytiques à peu près. Bon, bien, des antidépresseurs, des machins. La moitié à peu près. Ne vous inquiétez pas, je vous connais. Hein. Alors, si ce n'est pas des anxiolytiques chimiques, c'est des anxiolytiques de différents, va. Bon, il n'y a pas que des anxiolytiques chimiques, mais des médecins. Il y a d'autres anxiolytiques. C'est évident. Alors. Alors, quelqu'un qui en prend depuis un certain temps, qui continue à en prendre. Qui continue à en prendre, bien sûr. Qui continue à en prendre. Qui continue à en prendre. Mais ce n'est pas parce que vous prenez des anxiolytiques que les angoisses ont disparu. Il y en a qui vont revenir. Eh bien, donc, pour le cas, à ce moment-là, vous gérez comme quelqu'un qui vous gérez cette angoisse nouvelle. De la manière qui est là. Et vous réintroduisez un pli. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est la même chose, mais vous le faites sur la base d'une même unité somatique. Il faut tenir compte du corps, quand même. Bon. Donc vous voyez bien que derrière l'angoisse, il y a cette peur constante qui est en nous et qui s'est enclenchée avec la toute première peur de l'embryon de couper de son père, de sa mère, à la naissance. Regardez tous, nous tous, nous avons été séparés de notre mère. Il a fallu couper le cordon ombilical, on est rentré dans un monde où est ma maman, il n'y a plus de... Et ça a développé immédiatement une peur totale d'être coupé de sa mère, d'être coupé de son père, d'être coupé de Dieu. Du point de vue de la mémoire, d'être coupé de Dieu, c'était associé à la peur d'être coupé de tout, et même de Dieu. Parce qu'on est très, 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 très proche de cette présence de Dieu quand on est là, dans la naissance, à la nativité, à notre naissance. On est très, très proche, on a beaucoup vécu cette union avec Dieu dans le sein de sa mère, vous savez. Spirituellement, on a des expériences extraordinaires dans l'union à Dieu pour un enfant. C'est vrai. Et l'oubli n'est pas encore intervenu, vous voyez ?
Même si la mère ne croit pas.
Mais bien sûr, ça n'a rien à voir, c'est de la nature. Dieu, il vous a créé une âme spirituelle. Et il est intervenu personnellement dans ce don, physiquement. Vous voyez bien. L'oubli, il intervient après, notamment, précisément, avec ses ruptures. Ça peut venir avant, déjà, si l'enfant sait que sa mère veut le tuer. Ça, oui, ça peut venir, peut commencer déjà à venir avant. Mais n'empêche que c'est le refus, c'est-à-dire la peur d'être coupé de sa mère, de son père et de Dieu, qui est là, la réalité sous-jacente à l'angoisse. Les psychologues oublient ça. Les psychanalystes oublient ça. Ils oublient complètement de tenir compte de ça. Et c'est pour ça qu'ils ne ramènent pas vers... le fait qu'ils ne ramènent pas vers... Ils ne ramènent jamais vers le père, vers la mère et vers Dieu. Au contraire. Ils oublient cette spiritualité, cette réalité spirituelle sous-jacente, humaine. Parce que là, je parle du Dieu créateur. Hein? C'est dommage qu'ils oublient ça, parce que du coup, ils n'orientent pas vers les aspects positifs, et notamment le pardon. C'est ça, puisque vous avez une prochaine réunion sur la confession à Castelnau, eh bien, c'est beau de développer ça. C'est retrouver le pardon vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère. Être que, au moins dans notre Église, les hommes qui prient Dieu dans notre Église, eh bien, ils aient ce sens qu'il ne faut peut-être pas rentrer dans une spiritualité des psychologues, des psychanalystes, des freudiens, etc., qui consiste à rejeter la faute sur le père, la mère, dans le schéma du complexe de castration, mais qu'ils aillent, à partir de l'angoisse, jusqu'au bout d'eux-mêmes, pour apprendre à pardonner, à retrouver l'unité avec son père, avec sa mère, avec Dieu, les trois ensemble. C'est peut-être ça la réalité, la grande différence entre l'esprit du monde, l'immense différence entre l'esprit du monde, et puis l'esprit de celui qui va dans la maison de Dieu. Vous voyez, au fond, cette angoisse, cette souffrance, ces réactions négatives de dépit, de suicide, quelque part, que sont les réactions négatives, sont comme un cri de mon être tout entier, qui crie comme David dans les psaumes, « Je suis coupé de Dieu, je suis séparé de Dieu !» C'est un cri, c'est une prière. C'est ça, je ne suis pas dans la plénitude de Dieu. Ce qu'on disait hier dans le sermon, je suis désemparé. Quand est-ce que tu vas venir? Je reviens, me voici Seigneur. Pour faire ta volonté. C'est ça l'angoisse, c'est ça l'agressivité continuelle. C'est ce cri de celui qui retourne à condition qu'il accepte de pardonner. Et oui, c'est ça le problème. On est tous frappés par le sentiment de culpabilité parce que le péché originel nous a frappés tous au départ. Et donc il a mis en nous, en chacun d'entre nous, tous un peu du refus de l'alliance totale avec Dieu. Je ne crois pas qu'Adam et Ève, si vous voulez, au moment du péché originel, ils aient voulu se séparer totalement de Dieu. Mais ils ont refusé que l'alliance avec Dieu soit totale. Ça oui, non. C'est ça le péché originel. Et à chaque fois qu'on fait un péché, on ne veut pas se séparer de Dieu totalement, mais on refuse que notre alliance avec Dieu soit totale. Ça oui, ça c'est péché originel ça. On est tous frappés par ça dès le premier moment de notre vie intra-utérine. Il ne faut quand même pas l'oublier. On est tous frappés par ça. Alors du coup, ça induit ce sentiment, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans la plénitude de Dieu. Et du coup, j'ai peur de me donner totalement à Dieu, j'ai peur de me donner totalement à mon prochain. J'ai peur d'être altruiste, j'ai peur de ne pas, j'ai peur de ne pas toujours tout ramener à moi-même. J'ai peur d'être pauvre, j'ai peur tout ça, d'être, voyez. Alors, du coup, ces peurs vont induire des jalousies, c'est pas des révoltes, des prises d'indépendance, etc. Et ça, c'est normal. Voilà, je préfère être indépendant finalement. Bon ben, Dieu. Je reviens 5 minutes, hein. Je vais d'abord aux poubelles et je reviens. Hein. Je reviens bientôt, hein. Et oui, parce que quand je suis indépendant, avec ces peurs-là, moi qui suis porteur du péché originel, donc du péché des hommes, de tous les hommes, quelque part. Alors, à ce moment-là, c'est moi qui prends l'initiative de la rupture. Je vais être indépendant parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui prends cette initiative. Beaucoup moins douloureux. N'est-ce pas? Et le péché originel, au fond, nous met dans une disposition intérieure à prendre l'initiative de la rupture par peur d'être déçu dans mon attente d'amour, de plénitude d'amour, d'alliance totale avec Dieu, par peur. Par exemple, les handicaps. Ces Jean Vanier qui fait remarquer ça, quand vous avez un handicapé, il est dans une salle d'hôpital, il est bon. Il y en a quelqu'un qui rentre et dit oh oui, on va visiter les. Même les infirmières, la nouvelle, l'infirmière qui arrive, ou bien des visiteurs, ils rentrent, ils voient un handicapé. À lui, un handicapé, vous le savez très bien, développe une attente d'affectivité considérable, 100 fois plus grande que la nôtre. Et la première réaction des étrangers, handicapé, on ferme la porte. Il est dans l'attente. Personne ne voit que. Personne ne voit ça. Oui, elle s'en va. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 15 fois. Jean Vanier rentre. Ah, handicapé. Je me précipite sur lui. Et l'enfant handicapé, qu'il voit arriver, il a tellement été blessé par les 14 fois précédentes. Il a tellement peur en voyant un nouveau personnage arriver qu'il y a à nouveau une rupture, qu'il en va bouler. Mais ce truc, c'est pas pour qu'il soit mal, c'est parce qu'il est dans la tente d'avoir été accueilli. C'est exprimer précisément cette soif d'avoir été accueilli, qui a été déçu. Alors je prends l'initiative de dire non, parce que c'est trop dur, sinon, si je suis dans cette attente continuelle et que j'en suis blessé. Voyez bien, toutes nos agressivités, c'est comme ça. Toutes nos angoisses, c'est à partir de là. Il faut le comprendre. Il faut au moins prendre conscience de la réalité spirituelle sous-jacente. Il faut voir la réalité et la vérité. Tout s'explique par l'amour, pour l'amour, dans l'amour. Voyez bien. Alors c'est à cause de ça. Vous voyez bien que le Christ, lui, il accepte de ne pas prendre l'initiative de la rupture, et de prendre sur lui cette méchanceté tout entière. Et c'est ça le mystère de la croix. Alors, le Christ... ah oui, il y avait un autre tableau. Bon, ça fait rien, on verra la prochaine fois, mais... Le Christ se laisse atteindre par cette méchanceté. C'est la croix. Bon, maintenant nous allons voir, après avoir vu la réalité spirituelle sous-jacente, oh là là, j'ai plus que 5 minutes, on va essayer de regarder notre responsabilité. Je vous ai dit que dans le sentiment de culpabilité, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes coupable. Vous n'êtes pas coupable. Mais ne dites pas que vous n'êtes pas responsable. Nous sommes responsables. Responsable, mémoire. On est responsable. C'est à cause de cet amour initial, de cette soif d'être dans la plénitude totale de l'alliance avec l'amour de Dieu. Et du coup, on développe des choix, des initiatives. Et on en est responsable de ces initiatives. On n'en est pas coupable, ce n'est pas volontaire, c'est vrai. Donc, essayons de voir, dans un dernier moment, on n'a plus que 3-4 minutes pour le regarder, qu'est-ce que c'est que cette responsabilité ? Bon, je vous l'ai déjà dit, mais je lis mes notes. Ma responsabilité dans le sentiment de culpabilité, elle intervient dès que je choisis. Dès que je choisis, dès que je fais un choix. La responsabilité se mesure au niveau des actes qu'on pose et qu'on choisit de faire. Or, mon choix se fait, mes choix du côté de la mémoire et de ma liberté spirituelle. Ah voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Quand je vous disais, il ne faut pas mettre des mémoires, il faut mettre conscience, je ne sais pas quoi. C'est liberté aujourd'hui qu'il faut mettre. Une puissance de liberté. On a une liberté, une volonté, une intelligence. Ça, tout le monde comprend ça. Or, mon choix, il est dès la conception, comme je vous l'ai expliqué, puisque je peux développer, à partir de ma liberté non réfléchie et non volontaire, je peux développer des choix de vie ou des choix de mort. Dès mon petite enfance, dès ma période embryonnaire. Voyez bien. Alors, c'est avec ma mémoire ontologique que je fais ce choix. Dire que je ne suis pas responsable, ça n'est pas vrai. Dire que je suis coupable, ça n'est pas vrai non plus. Dire que j'ai été blessé, c'est vrai. Et dire que du coup, j'ai désiré ne pas être blessé davantage, c'est vrai aussi. Et dire que l'angoisse, cette tension entre cette vocation à l'amour et cette peur de ne pas être comblé de l'amour dont j'ai besoin, oui, c'est vrai aussi. Et que du coup, je développe des actes et des choix pour me réfugier dans une moindre peur, le refus de la croix, c'est ça, c'est vrai aussi. C'est pourquoi peut-être, si on est chrétien, eh ben, il faut se forcer peut-être quelque part à choisir de faire des prières en disant « je veux aimer la croix, je veux me rapprocher de la croix ». C'est pour ça que c'est bon de faire les Horizons de Sainte-Brigitte, par exemple, parce qu'on apprend à aimer la croix. On apprend à aimer Jésus sur la croix. On apprend à aimer de regarder Jésus sur une croix. On apprend à regarder Jésus qui souffre sur la croix. On apprend à rentrer, à comprendre, à saisir, à être attiré par cette prière de Jésus sur la croix, au Père. On apprend à être le jumeau, le frère jumeau de Jésus sur la croix. On apprend à aimer Jésus crucifié et ressuscité. On apprend à être uni à la croix glorieuse. On apprend à dire Jésus, je ne demande qu'une seule chose, c'est d'aimer éperdument le mystère de la croix. Ça m'étonnerait que quelqu'un qui développe vraiment cela, là, il ne se sort pas petit à petit de cet athéisme pratique. C'est vrai? C'est très beau, les gens qui... Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Pendant 2 ans, j'utilise les Horizons de Sainte-Brigitte, ces textes dictés par Jésus à Sainte-Brigitte. C'est magnifique. Magnifique. Et quand on finit par les savoir par cœur dans notre mémoire spirituelle, dans notre mémoire sensible, dans notre mémoire de concept, dans notre mémoire d'appui, dans notre mémoire affective, c'est merveilleux. Oui, donc, dire je suis coupable, ce n'est pas vrai. Parce que je dis, on est responsable, mais pas coupable. Parce que ma conscience n'est pas capable de discerner entre le bien et le mal. Je suis coupable quand je suis capable de discerner entre le bien et le mal. Veritatis splendor. Il faut que je sois confronté à cette vérité. Que ça c'est bien, et cette vérité, que ça c'est mal. Et ça, c'est par la révélation. C'est Dieu qui me dit que ça c'est bien et ça c'est mal. Et mon père et ma mère qui me disent que ça c'est bien et ça c'est mal. Donc, tant que je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal, tant que je ne suis pas reçu, cette vérité dans mon intelligence, je ne peux pas réaliser des actes coupables. C'est pas possible. C'est donc pas un péché coupable. Péché, c'est la culpabilité, c'est vachement. Hein. Donc, est-ce qu'il y a péché? Il n'y a pas de péché personnel, puisque vous n'êtes pas coupable. Mais vous êtes responsable. Donc, est-ce que c'est... Donc, c'est pas un péché, direz-vous? Eh bien, si, c'est un péché. Vous êtes responsable, c'est un péché. Mais c'est un péché, alors là, retenez cette expression, parce que vous la trouverez dans les livres et tout, et elle est importante. Et puis, par rapport à la mémoire, c'est très important. C'est le péché communionnel. C'est le péché originel. Le péché communionnel qui comporte tout l'héritage du péché originel, tout l'héritage de ses conséquences, qu'on appelle les séquelles du péché originel, tout l'héritage du péché de symbiose, symbiotique. Ça, c'est le contexte, si vous voulez, de la communion avec le Père et avec la Mère. Le Père et la Mère, et fait que me donne un champ, j'allais dire. Je communie au péché de mon père et de ma mère. C'est-à-dire que si ma mère me porte en fille enceinte et puis qu'elle est en train de dégorger son mari, c'est-à-dire mon père, je suis dans le mouvement que fait ma mère. Péché communionnel. J'y suis, je ne peux pas faire autrement. Mais c'est un péché. J'y ai participé. C'est volontairement, c'est pas mort, je veux dire, quelque part. Mais, et alors, c'est ça, péché communionnel. Vous voyez, c'est avec elle, quelque part, que j'ai pris cette habitude. Mais c'est mon habitude.
après, quand j'ai 50, 20 ans, etc. C'est bien mon habitude. Donc, le péché comme une... Donc, c'est vraiment péché, mais ce n'est pas péché personnel. C'est un péché à origine communionnelle, symbiotique, péché originel ou séquel. Donc, je ne suis pas, je suis responsable, mais pas coupable. Mais là où je risque de devenir, donc nous sommes en train de regarder la responsabilité personnelle dans ce phénomène de sentiment de culpabilité, mais là où je commence à devenir responsable et coupable à la fois, c'est dans ma manière dont je vais gérer cette angoisse, dans ma manière dont je vais réagir, que je vais choisir de réagir par rapport à cette angoisse, par rapport à ce sentiment de culpabilité. Là, je deviens coupable, vous voyez. Si je décide finalement, parce que c'est commode, j'en ai pris l'habitude, habitude de vicieuse, d'avoir une agressivité continuelle, ça c'est pour tous les ménages, ça. Personne ne fait pas ça. Alors à ce moment-là, si je trouve finalement c'est commode, c'est finalement c'est ça, j'ai trouvé une je me suis stabilisé finalement dans ce système. Je me suis stabilisé. Ah, si je choisis de garder cette stabilité, là je suis coupable. Il faut accepter de plus loin, de retrouver une personnalité qui est la mienne, n'est-ce pas, en acceptant de retrouver son identité profonde, de soif d'amour réel, véritable et incarné, et donc de pardonner. Pour arrêter ce processus d'agressivité coupable, qui n'était pas au départ une agressivité coupable, qui est une agressivité responsable.
Et quand on agressif, quand on n'est pas agressif et qu'on accepte tout, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce que c'est?
Non. Et non, mais il faut accepter. Oui, ça veut dire quoi? Attention, oui, je reconnais que c'est. Ici, je donne une structure sur le point de vue psychologique. Elle est interprétée du point de vue spirituel. Et ici, vous posez la question qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Lorsque spirituellement, je renvis de l'abandon, qu'est-ce qui se passe ici dans cette structure? Mais ce sera justement le sujet de la prochaine fois. Puisque dans le sujet de la prochaine fois, je regarde comment, lorsque je rentre dans le point de vue de la conscience de culpabilité, spirituellement, la prochaine fois, je vais t'inviter. Donc, on en a tous besoin. Mais on a besoin de tout. D'abord, pour commencer, il faut revenir à votre soif initiale et accepter, quelque part, de ne pas prendre l'initiative de la rupture par rapport à cette soif initiale dans laquelle vous avez été créé. Vous avez cette soif, elle ne vous a jamais quitté. Vous la recevez, vous rentrez dedans et vous renouvelez cette soif initiale d'amour. Vous vous retrouvez vous-même en vous-même. Voilà. C'est pour ça donc que, justement, notre gestion actuelle du sentiment de culpabilité, si on n'y réfléchit pas, c'est un processus mécanique, mais à partir du moment où on commence à en décomposer en disant tiens ça c'est bien, tiens ça c'est mal, attention, ce ne sera plus du sentiment de culpabilité, ça risque de vous rentrer automatiquement, si vous rentrez dans la compréhension du sentiment de culpabilité, la compréhension de l'angoisse, attention, vous allez rentrer automatiquement dans la conscience de culpabilité, ce qui sera un progrès considérable. Mais si vous gérez et si vous continuez à gérer négativement votre sentiment de culpabilité, cette conscience de culpabilité, au lieu de vous faire entrer dans la sainteté et la réconciliation, risque de développer des négativités encore pires. Ici, dans le sentiment de culpabilité responsable et non coupable, eh ben, je développe des névroses. Tandis que dans une conscience de culpabilité où je m'obstine à garder cette négativité, ça fait un peu en psychose. Une psychose, il y a une culpabilité personnelle, consciente. C'est la différence entre une psychose et une névrose, c'est ce que nous verrons la prochaine fois.